Vous écoutez
RMC.
RMC.
Tant qu'on ne perd pas, on est content, mais tant qu'on ne gagne pas, on n'est pas heureux.
I will finish now and I will go to IKEA, Conforam, to help my wife to choose the things.
Bah, Olivier, il ne regarde pas un match de Coupe d'Europe africaine. Ah, oui.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
On est ensemble jusqu'à minuit sur RMC en direct avec Elton Mokolo, avec Maxime Chanot, avec vous sur le WhatsApp. WhatsApp, c'est mieux. RMC
WhatsApp.
06 12 424 424 et également au 32 16 sur RMC. On vous attend au standard. On va parler de l'Olympique Lyonnais. Lyon qui joue son avenir européen demain devant son public face au Sparta Prague. On rappelle qu'ils ont été battus à l'aller 2 buts à 1 lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Lyonnais doivent donc renverser les Tchèques, mais j'ai quand même quelques statistiques qui sont assez inquiétantes. Lyon n'a jamais renversé un barrage après avoir perdu le premier match. Paulo Fonseca n'a jamais qualifié une équipe pour la Ligue des Champions. Donc ça
joue pas en la faveur de Lyon, en effet. Ouais.
Effectivement. Et on rappelle qu'ils ont été très loin du compte lors du premier match. Fonseca avait d'ailleurs été critiqué notamment pour ses choix tactiques lors du match aller, avec un système notamment très frileux. Voilà. La seule bonne nouvelle du match aller, c'était peut-être Openda, la recrue qui, pour le coup,
s'est
illustrée. Ouais. Et le résultat qui n'est pas... Voilà.
Finalement, c'est bien payé, hein.
Qui n'est pas
catastrophique.
Non, défaite de but à 1.
Un but de retard, tu joues le match retour à domicile. Alors on va peut-être pas revenir sur ce qui s'est passé à Prague, mais en tout cas, Fonseca a complètement explosé en l'air dans ses choix, dans sa manière déjà, dans son choix des 11 titulaires. C'était incompréhensible. Il avait mis ses 4 ailiers sur le banc. Il avait décidé de jouer aussi avec une défense à 3. Ça n'a pas du tout fonctionné. Tu avais des joueurs qui ont été en dessous, notamment Clinton Mata et d'autres d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a eu des points positifs. Openda, j'ai trouvé intéressant, mais c'est vrai que la prestation de l'Olympique Lyonnais contre un Sparta Prague qui avait déjà joué 3 matchs officiels, donc c'est vrai qu'ils étaient quand même arrivés, et physiquement on sentait qu'ils étaient quand même prêts.
Ah ouais,
c'était
c'est
pas forcément
vu,
le cas de Lyon,
ouais.
Mais quand tu regardes un petit peu la préparation de Lyon, on en a parlé d'ailleurs, hein, notamment sur le dernier match contre le Betis Séville, là où est-ce qu'il s'était fait aussi marcher dessus. En tout cas, ça avait été très très moyen, c'était presque prévisible. Mais alors que Fonseca met en place cette tactique avec ses 3 défenseurs, alors qu'il a le matos pour jouer, en tout cas avec des ailiers, moi j'ai pas compris. J'ai entendu sa conférence de presse. Je pense qu'il va revenir avec un schéma à 4 défenseurs, notamment. Mais c'était incompréhensible. C'était l'un des pires matchs que j'ai vu de l'Olympique Lyonnais. Et j'ai bon espoir qu'ils vont se réveiller. J'ai bon espoir qu'ils vont renverser la tendance et qu'ils vont aller se qualifier, qu'ils vont aller en tout cas passer sur le prochain tour, parce qu'on sait que c'est très très important pour l'Olympique Lyonnais cette qualification. Mais c'est clair que c'était un non-match et c'était presque inquiétant.
Fonseca qui a été critiqué. On attend évidemment une réponse demain. Il y a des joueurs qui sont espérés au coup d'envoi, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est évidemment Moussa Niakate derrière, Malik Fofana et Ernest Nouama. Il t'en a parlé, hein. Fonseca, il est attendu et il a répondu, il a dit on doit prendre des risques. C'était aujourd'hui en conférence de presse. On écoute l'entraîneur de l'OL.
À cet moment, nous devons risquer parce que nous avons besoin de changer un résultat négatif et nous devons risquer. Si nous avons un autre résultat de première match, change rien, nous devons gagner. C'est le même objectif, le même mindset, le même change rien. Nous savons que nous devons gagner le match.
Fonseca s'est raté au match aller, il le reconnaît quand même là. On doit gagner, on doit marquer, on doit prendre des risques. Tout ce qu'on n'a pas vu au match aller avec cette équipe qui était extrêmement frileuse.
Maintenant, mardi dernier, Karine, moi j'étais sur ce plateau, on avait parlé de Fonseca pendant très longtemps, on avait dit qu'on n'avait pas compris sa compo, c'est une chose. Maintenant, aujourd'hui, Fonseca paratonnerre, faudrait pas que ça serve pour le match retour. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, c'est un match pour les joueurs. Parce qu'à un moment donné, il va aussi falloir prendre ses responsabilités quand on est les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Quand on est des joueurs expérimentés, parce que Fonseca, il y avait un contrat de confiance sur le match aller en voulant s'appuyer sur des joueurs expérimentés, et ils n'ont pas rendu sur le terrain. Là, tu es à la maison, tu connais l'enjeu, tu sais à quel point pour l'avenir de l'Olympique Lyonnais, à tous les niveaux, sportifs comme économiques, c'est important, c'est un match bascule. Et moi, j'ai envie de davantage penser que demain, c'est un match beaucoup plus pour les joueurs que pour Fonseca. Fonseca, dans tous les cas, si ça se passe mal, il prendra. Évidemment, mais aujourd'hui, j'ai pas envie entre guillemets que les joueurs ils se cachent derrière
ouais,
tout ça.
Pas que Elton, t'es d'accord avec nous que sur le match aller, la tactique qui a été choisie par Fonseca, notamment avec 9 joueurs défensifs, t'as beau dire c'est les joueurs, je suis d'accord avec eux, c'est les protagonistes, c'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui jouent au ballon. Mais enfin, honnêtement, l'entraîneur a fait n'importe quoi. J'aime beaucoup Fonseca, attention, je suis le premier.
Mais Maxime, dans le match, on l'a décrit tactiquement, mais c'est un match où mardi dernier, t'as la balle de 2-0, t'as le penalty du 2-1. T'as eu tes moments.
Bien sûr, c'est presque un miracle. Franklin d'ailleurs, même qui termine avec un but de retard, et notamment parce que c'est vrai que ça aurait pu tourner à la faveur de Lyon. C'est vrai qu'il y a ce penalty loupé de Tolisso, mais bon, enfin Fonseca là, il, je sais pas ce qui lui a arrivé, il a pété une durite parce que c'était parce incompréhensible.
Qu'il avait pas
qu'il a eu peur, est-ce qu'il était frileux, est-ce que justement c'est aussi peut-être le bah, c'était le match, c'est un match important, on l'a dit, hein, d'un point de vue financier. On sait que Lyon a quand même souffert l'année dernière, notamment avec cette rétrogradation administrative en Ligue 2. On sait qu'il y a eu le repreneur. On sait aussi que Lyon est à la recherche, justement, de liquidités. Donc, cette qualification, elle est très importante pour l'avenir de Lyon.
Et puis, le Sparta Prague est un club qui est largement prenable. L'OL avait toujours battu le Sparta Prague jusqu'à présent.
Ah, après, là, dans le jeu, tu t'es fait retourner.
Oui, d'accord, mais le Sparta Prague, c'est pas. Et quand tu les as pris au tirage, tu te dis pas, mon Dieu, bien c'est
sûr,
notre bête noire.
Bien sûr, mais évidemment. Et c'est pour ça qu'on est d'autant plus surpris, parce que au-delà de la défaite, c'est que tu t'es fait à un moment donné trimballer partout. Ah. Et match retour, je fais, les joueurs, ils doivent cogiter depuis mardi dernier du côté de Prague et se dire que le match à Décines, ça va pas se passer de la même manière.
Et on rappelle que demain, il devrait y avoir jusqu'à 50 000 personnes. Ah, et ça, sûr. C'est une très belle nouvelle. C'est une information d'Edouard G. On rappelle qu'on est la semaine du 15 août. Et donc, arriver à motiver 50 000 personnes pour aller au stade, c'est digne d'un exploit, dit même Edouard G. Donc, l'ambiance sera magnifique.
Sûrement, c'est pas insurmontable. Ils ont qu'un but de retard. Ils jouent à domicile. Voilà, Lyon aussi a un passé européen qui joue en leur faveur. Moi, je vois bien, en tout cas, les Lyonnais renverser la tendance et gagner ce match. Et en tout cas, alors je sais pas, mais laver entre guillemets l'affront de ce qui s'est passé en République tchèque.
Au-delà de laver l'affront, c'est mettre fin à 15 derniers jours où préparation, Ligue des Champions, enfin le match aller de troisième tour, c'est vraiment pas bon du côté de l'Olympique Lyonnais. On avait parlé de la fin de la préparation contre le Real Betis où c'était catastrophique. Et d'ailleurs, ça a eu une énorme influence dans les choix, dans la composition de Fonseca. Et là, il faut justement changer cette dynamique négative pour avoir une dynamique un peu plus positive, déjà pour le troisième tour. Et probablement, probablement c'est juste qualifié,
bien sûr.
Et voilà. La suite.
Parce que derrière, il y aurait les barrages de C1, mais on n'en est pas encore là. On accueille Maxime, supporter lyonnais au 32-16 sur RMC. Bonsoir Maxime. Maxime.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Maxime, on t'entend. Alors, est-ce que tu es confiant? Parce qu'on a Max,
bonsoir,
notre Américain, qui lui...
Bonsoir à tous, vous m'entendez?
Oui, on t'entend, parfait, Maxime. Parfait. J'ai l'impression qu'on a un petit écho, mais nous, on t'entend très bien. Tu nous entends? Il ne nous entend plus.
En tout cas, il reste Maxime. Un autre Maxime sur le plateau.
Voilà. Ouais. On avait l'Américain qui était confiant. Je voulais savoir si le Lyonnais était confiant, mais visiblement, il y a un petit bug au niveau du standard. Donc, on va écouter peut-être Paulo Fonseca, je vous propose. Paulo Fonseca, qui veut que son équipe et ses joueurs soient décisifs demain. On écoute l'entraîneur portugais.
Nous devons marquer le premier. Et après, je pense que le premier est important. Mais je pense que ça sera un match disputé jusqu'à la dernière minute. Nous devons gagner. C'est le même objectif, le même mindset, le même, change rien. Nous savons que nous devons gagner le match.
Nous savons que nous devons gagner le match, bien évidemment, vu qu'ils ont perdu 2-1.
À quoi ça sert ces conférences de presse, honnêtement?
Ah non, mais là, il rappelle une évidence. Il rappelle une évidence. Il peut pas dire autre chose par rapport à l'importance de cette rencontre demain à tous les niveaux pour l'Olympique Lyonnais.
Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est quand même, il a annoncé a priori des changements par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. On écoute également l'entraîneur portugais sur le 11 de départ qu'on devrait voir demain.
Je vois être honnête et Malik et Ernest, ils commencent demain le match. Je pense qu'ils sont importants pour nous. Le dernier match était impossible avoir les joueurs pour commencer. Julien et Kaïl ne sont pas prêts pour un match de cette dimension et aussi physique. Mais demain, nous avons Malik et Ernest prêts pour commencer.
C'est dans la continuité de ce qu'il dit depuis le match de préparation contre le Real Betis. Il n'a pas confiance pour l'instant en Boudache et Duranville par rapport à l'importance de cette double confrontation. Et il attendait, il espérait même la montée en puissance et de Malik Fofana et de Nouama. Et moi, je pense que demain, les deux joueurs, ils auront grosso modo une heure pour tout casser avant que les remplaçants prennent le lead.
Ça a été l'erreur de Fonseca, c'est d'avoir mis Nouama et Malik Fofana sur le banc. On avait justement, en tout cas,
ils
Lyon.
Ils sont pas prêts pour eux.
Oui, je comprends, mais bon, ça reste, regarde. On en parlera un peu plus tard. Il y a une histoire aussi de qualité. Paris Saint-Germain, ils vont jouer deux matchs là, très très importants pour eux, avec des joueurs qui potentiellement ne sont pas prêts physiquement. Mais quand t'es sur un match comme ça, avec une importance comme celle-ci, t'es obligé, tu mets tes meilleurs joueurs. Et pour moi, l'erreur de Fonseca, c'est justement d'avoir changé sa tactique, pour jouer avec trois défenseurs et de mettre Malik Fofana et Mbemba sur le banc.
Je pense qu'il y a une réflexion long terme, double confrontation. En fait, on essaye de sauver les meubles sur le match aller à Prague, ce qui s'est pas passé, pour pouvoir attaquer match retour.
Pour donner une semaine de plus d'entraînement dans les jambes aux gamins pour qu'ils puissent être prêts. Ouais, pourquoi pas. Mais après, c'est risqué, hein, parce que si tu te fais sur le premier match, tu vois que le match retour, il est inutile. Mais
messieurs, nous avons retrouvé Maxime, on espère que ça va marcher. Maxime, bonsoir.
Salut Maxime.
Maxime, tu nous entends sur RMC ou toujours pas ?
Ah si, moi je vous entends.
Ah super, magnifique. Maxime, tu es supporter de l'Olympique Lyonnais, on parle de l'avenir européen de ton club. Est-ce que tu es confiant ? Est-ce que tu penses que l'OL peut renverser le Sparta Prague ?
Ouais, bah moi je suis plutôt confiant pour demain, parce que comme je disais au standard, Fonseca va enfin remettre une composition cohérente, avec notamment revenir en 4-2-3-1, en 4-3-3, on verra la position de Tolisso. Voilà, la seule interrogation que j'ai, on va dire, c'est sur nos attaquants, sur les côtés, avec Fofana et Nwama, qui n'ont pas fait de match de plus de 90 minutes depuis un certain temps. Mais sinon, je suis assez confiant, parce que voilà, on va revenir à 4 derrière, et c'est vrai qu'il n'y aura pas cette dinguerie que Fonseca a pu faire sur le match aller. Donc du coup, ça me donne quand même de la confiance sur le match de demain, notamment avec Openda, on l'a vu sur le match aller, on l'a un peu envoyé au casse-pit. Il a quand même répondu présent, il a montré de bonnes choses.
Donc, il est intéressant, oui.
Ouais, si demain il est bien entouré, je pense que honnêtement ça devrait le faire. Et à domicile, un gros match comme ça, généralement on sait répondre présent. On a quand même cet ADN européen.
On sent, enfin on a entendu là récemment que ça grondait autour de Fonseca. Toi, en tant que supporter lyonnais, qu'est-ce que t'en penses de cet entraîneur qui a quand même fait une très belle saison l'année dernière? Il faut pas oublier d'où vous partez, mais c'est vrai qu'il a quand même parfois des choix un peu surprenants, notamment d'ailleurs sur le dernier match. Hein. On en a parlé un peu plus tôt. Voilà, toi, comment tu te situes par rapport à cet entraîneur?
Bah oui, non, moi je trouve que l'année dernière il a fait de très bonnes choses, notamment avec les moyens qu'il avait. Moi, ce que je lui en veux un peu, c'est sa communication. Moi, je me rappelle notamment du match l'année dernière à Toulouse où on perd le match. Il disait en gros, bah, c'était pas grave, que déjà où on était, c'était un peu héroïque.
Ouais, 4ème, c'était comme un trophée.
Ouais, voilà. Moi, je trouvais que c'était un peu, vous me permettez l'expression, mais un peu pisse-froid. C'était un peu loser. Et après, le match contre Lens, on en avait pris 4 face à l'équipe B de Lens. Donc, moi, j'en ai un peu voulu sur sa communication. Et à Lyon, on lui en veut un peu. Notamment sur la gestion des gros matchs. On se souvient du match de Manchester United, on se souvient du match du Celta Vigo.
C'est vrai.
Sur les gros matchs, il a quand même un peu de mal, surtout au niveau européen. Et même quand on regarde, quand il est passé à la Roma, bon, Milan, c'est un peu particulier. Parce que
ouais, Milan, c'était très rapide.
Ouais, mais même.
Voilà, il est quand même parti gagner au Bernabéu. Comme quoi.
Ouais, voilà, on peut toujours trouver
c'est vrai que sur les gros matchs.
En Europe, en tout cas, à Lyon, on attend quand même beaucoup plus d'un entraîneur qui a le deuxième plus gros salaire de.
Ouais,
de
bah ouais, c'est ça.
Et en fait, c'est aussi.
On attend plus.
Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il risque de rester à l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de son contrat, c'est que vu l'aspect économique, la difficulté, les difficultés financières de Lyon, ils peuvent pas se permettre en tout cas de le dégager. Donc c'est vrai que Lyon est presque pied moins main liée entre guillemets avec le contrat de Fonseca. Mais je suis d'accord avec toi sur les gros matchs et notamment contre le Celta Vigo. Là, c'était le plus récent. On sent qu'il y a un plafond de verre vraiment sur. Voilà, sur la culture tactique, c'est un très bon entraîneur. Hein. Je l'ai beaucoup défendu l'année dernière, je l'ai beaucoup aimé, je l'aime toujours aussi, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que bon, il m'a déçu sur le dernier match contre le Sparta. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, il y a quand même ce petit manque sur les gros matchs qui m'inquiète, mais que voilà, qui me laisse un petit peu un goût d'amertume sur cet entraîneur-là, parce qu'il a quand même du potentiel. L'année dernière, on lui a quand même ramené des joueurs de grande qualité. Voilà, je pense qu'il a gros à jouer sur le match retour contre le Sparta Prague, mais je reste persuadé en tout cas que Lyon va renverser la tendance et gagner ce match.
Plus que des problèmes sur les gros matchs, moi c'est des problèmes sur les matchs du jour J. Parce qu'on a parlé de Toulouse, on a parlé de Lens. Ce n'était pas forcément des gros matchs, c'est beaucoup plus sur le jour J.
Après, Lens, ils ont roulé sur tout le monde l'année dernière. Hein.
Mais je pourrais aussi te parler du Celta Vigo. Au-delà des gros matchs, c'est précisément le jour J. C'est quand l'Olympique Lyonnais est attendu. Mmh. Et quand l'Olympique Lyonnais est attendu, bah, Fonseca, moi, j'ai tendance à penser qu'il a, entre guillemets, une approche de match qui est un peu trop anxiogène sur son équipe et qui rejaillit au pire des moments. Et donc, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à passer un cap. Et c'est pour ça que là, encore plus sur sa deuxième saison complète, bah, il y a plus de doutes autour de lui, et là les doutes il doit entre guillemets les dissiper à partir de demain.
Maxime, par rapport au fait que Lyon n'a jamais renversé un barrage après avoir perdu le premier match, on est dans cette configuration, tu te dis que c'est parce que c'était des adversaires qui étaient trop forts par le passé et que là le Sparta Prague c'est largement au niveau de Lyon. Qu'est-ce qui te fait dire que t'es confiant? Parce que bon, l'histoire malheureusement n'est pas en votre faveur.
Ouais, non, pas forcément que c'est des gros adversaires, parce que quand on regarde les adversaires, ils n'étaient pas forcément plus forts que nous, mais là, en fait, on peut pas faire pire par rapport au match aller, je pense. Donc il peut avoir que de l'amélioration. Et je pense que voilà, si on revient notamment sur ce stamacage d'assist, parce que c'est vraiment là où l'OL est le plus à l'aise, je pense que si on met les joueurs à leur poste, ça devrait aller mieux avec le public derrière. Je pense qu'avec une attaque qui va être quand même assez rapide en transition avec Fofana, Nwama, Openda, Tolisso qui va aussi s'insérer en tant que numéro 10 et qui va aussi créer du danger.
Et justement, vraiment, Maxime Tolisso, parce qu'on n'en a pas encore parlé, j'imagine que tu attends beaucoup de lui, parce que le capitaine a failli au match aller, il n'a pas été bon, il y a ce pénalty qui n'a pas été transformé, et c'est vrai que très souvent, quand l'OL est bon, Tolisso est bon, quand Tolisso passe à travers, eh bien, Lyon plonge.
Ouais, ouais, mais après, c'est compliqué d'être bon quand tu joues pas à ton poste, il joue attaquant gauche, donc... Je sais pas si Maxime aurait été à l'aise, s'il aurait joué numéro 10.
Ouais, ah, Maxime, il est polyvalent.
J'avais déjà du mal derrière, alors imagine en numéro 10. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi par rapport à Tolisso. Finalement, sa très bonne saison l'année dernière et notamment tous ses buts jouent en sa défaveur, entre guillemets, parce qu'on continue à l'utiliser à son poste qui n'est pas son vrai poste, en fait. Et c'est très difficile pour lui. Mais c'est vrai que tu te rends compte que quand Tolisso est un petit peu en dessous, bah, c'est aussi tout l'Olympique Lyonnais qui plonge. Il a vraiment une importance incroyable hein, dans ce club-là. Et moi, j'ai envie de lui tirer mon chapeau parce que c'est vrai que quand il revient à Lyon, il était quand même sur une pente descendante. Et malgré tout, malgré son âge, eh bien, écoute, il continue en tout cas à tirer le Lyon vers l'avant. Voilà, il va falloir en tout cas avoir un grand Tolisso si Lyon veut aller.
Attention, moi j'en ai parlé de Corentin Tolisso parce qu'on a parlé, on a évoqué cet été les matchs de préparation de l'Olympique Lyonnais, on a évoqué les matchs de préparation de Prague. Il y a des équations tactiques avec Corentin Tolisso. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui parce qu'il n'est pas dans la meilleure de ses périodes? Alors tu te dis, c'est un début de saison, il doit monter en puissance, sauf que. Bah, t'as un match de Ligue des Champions qui est déjà très important pour ton avenir. Et surtout, bah, il y a une évolution tactique de l'Olympique Lyonnais avec ce système à trois attaquants. Et à côté de ça, Corentin Tolisso lui demande d'être davantage milieu de terrain. Donc, qu'est-ce que tu fais avec lui s'il est pas bon? Et ça, c'est une équation tactique qu'il va falloir résoudre pour avoir le meilleur Corentin Tolisso.
Ouais, ça, c'est le cas pour tous les joueurs, Elton.
Aujourd'hui, plus pour un Corentin Tolisso parce qu'avant, il avait beaucoup plus de liberté la saison dernière.
Ouais, non, c'est clair. Après.
Pardon,
oui, Maxime.
Moi, je pense qu'il saura s'adapter parce que c'est un joueur qui a de l'expérience. Il est formé, numéro 8, hein, Corentin Tolisso. Donc, en fait, il va redevenir à son poste où il est formé. Donc, je pense pas que ça sera une difficulté pour.
Mais attention, avec le même niveau, ça, j'en suis pas sûr.
Ah non, moi je suis pas trop inquiet hein, par rapport à justement la position de Tolisso. Et même lorsque tu es joueur, t'es quand même beaucoup plus à l'aise lorsque tu joues ta vraie position. Et c'est le cas avec Tolisso là. C'est vrai que l'année dernière on l'a même fait évoluer en faux numéro 9. Donc je pense qu'il a tout à gagner en tout cas de reculer un cran, de retrouver son poste de milieu relayeur numéro 8. Et c'est même Lyon qui serait gagnant finalement, parce que je suis d'accord avec toi, il y a la culture de l'instant et puis aussi la culture de la performance. Il a été moyen en notamment en loupant ce penalty contre le Sparta, mais voilà, c'est aussi un début de saison. Tu sais que c'est une montée en puissance. Un joueur qui a un certain âge.
Il faut que demain ça passe.
Mais tu peux pas en tout cas être trop sévère avec un Tolisso parce que comme tout le monde, c'est son premier match officiel.
Moi, c'est beaucoup plus avec le collectif.
Montée en puissance.
Maxime, dernière question parce que tout le monde parle du retour du défenseur Niakate qui devrait stabiliser la défense, qui devrait rassurer ses coéquipiers, etc. T'en attends beaucoup également de lui demain?
Alors j'en attends beaucoup, oui et non. J'en attends beaucoup parce que c'est vrai que c'est le Tolisso en défense, mais après il n'a pas encore joué avec l'OL. Ça va être son premier match de cette saison, donc voilà, il revient de la Coupe du Monde et tout. Donc comment il va être physiquement, ça c'est l'interrogation que j'ai. Mais après, on sait que dans le vestiaire, sur le terrain, il est très important et on sait qu'en défense, on a besoin d'un mec qui équilibre l'équipe. Donc je suis bien content qu'il revienne pour stabiliser un peu cette défense qui a beaucoup souffert au match aller.
Messieurs, je vais vous faire réagir sur le retour de Niakate. Morton a été interrogé sur le retour de son coéquipier. On l'écoute.
Moussa, c'est un leader. Il parle beaucoup sur le terrain. Il est sans cesse en train d'organiser. C'est un joueur incroyable qui a une bonne qualité de passe. C'est super de pouvoir jouer avec lui.
Bon, on a vu la semaine dernière, Mata en difficulté, Kluivert en difficulté, Tessman derrière en difficulté. Là, Niakate, il peut bonifier aussi ce coéquipier. Et puis déjà, si on revient à un système à 4 classique, ça peut que arranger lui et ses coéquipiers qui étaient déjà présents la semaine dernière.
T'aurais beaucoup plus de repères avec Moussa Niakate en tant que capitaine de défense, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, ça manquait autant d'automatisme que de qualité à un certain moment. Et serait le fait d'avoir Niakate, ce sera un plus. Encore une fois, il faudra voir la réalité du joueur parce que ça sera ses premières minutes de compétition. Il n'a même pas eu des minutes en préparation, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Et encore une fois, je continue de penser que le passage à 4 défenseurs, c'est pas un pansement magique. Parce que Lyon, en match de préparation, on a pris 4 en étant dans une défense à plat. Donc tout ça pour expliquer que le système ne veut pas tout dire, parce que pour moi il y a beaucoup de questions à se poser, notamment sur les individualités derrière. Maitland-Niles, Clinton Mata ont été critiqués au milieu de terrain. Il y a eu des critiques autour, pas seulement de Corentin Tolisso, mais de Morton. Morton, c'est pas forcément son meilleur rôle. Donc il y a des interrogations à toutes les lignes, et ces interrogations, va falloir trouver des réponses pour mardi 21h.
De toute façon, c'était un naufrage collectif.
Exactement.
Hein, on l'a vu, mais je pense que le retour de Nyakate peut faire du bien déjà pour stabiliser cette défense. C'était le leader l'année dernière de la défense lyonnaise. Et puis ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un gaucher. Pour les sorties de balles, ça permet justement de pouvoir faire évoluer le ballon vers l'avant. Donc non, moi je pense que le retour de Nyakate va être très très intéressant. Et puis on en a pas trop parlé, mais on en parlera justement après par rapport au gardien de but. Je sais que tu veux faire un avis, mais c'est vrai que Greff avait pas été exceptionnel sur le match aller. Il va falloir aussi avoir un grand gardien du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais je le répète encore une fois, je suis convaincu que Lyon va arriver à inverser la tendance. Justement, il va revenir Fonseca, il va remettre sa tête un petit peu à l'endroit, il va revenir à un schéma tactique préférentielle qui est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible pour les joueurs, avec une défense à 4, en espérant évidemment que les deux ailiers, on l'a dit, Nouama et Malik Fofana, puissent être titulaires, avec un Openda qui pour moi a fait quand même malgré tout un bon match, qui est très compatible,
c'est la bonne nouvelle,
qui prend bien la profondeur, qui est en mesure de pouvoir garder le ballon. Si tu arrives à faire reculer Tolisso d'un cran et qu'il arrive à retrouver son niveau comme on l'a dit, je vois pas le Sparta Prague inquiéter l'Olympique Lyonnais sur ce match retour.
Maxime, le mot de la fin, est-ce que demain tu seras au stade?
Bah, je vais essayer d'y aller, hein, parce qu'il faut aller les soutenir. Donc voilà, on annonce 50 000, donc ça.
Et oui, très belle affluence demain.
Maxime, faut y aller,
ouais.
Faut y aller.
Une grosse ambiance, ouais. Il faut y aller pour essayer de se qualifier face au barrage. Je pense que par contre le barrage, ça sera une toute autre histoire. C'est vraiment, on se qualifie.
On rappelle que les barrages de C1, si Lyon est encore dans la course, ça sera soit le 18-19 août pour l'aller et le retour, soit le 25, soit le 26 août. Merci beaucoup Maxime d'avoir été avec nous. Bon match demain, bonne chance pour Lyon. Et on rappelle qu'on sera juste dans l'after foot après le match pour débriefer la prestation des Lyonnais. Soit la qualification, soit la déception et l'élimination. Dans quelques instants, on parlera du PSG qui va débuter sa saison officiellement mercredi face à Aston Villa en super coupe. On est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Karine Galli.
On est ensemble en direct jusqu'à minuit avec Elton Mokolo, avec Maxime Chanois, avec vous sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424 et également sur le répondeur RMC au 3216. Vous nous appelez, on sera ravis de passer quelques minutes avec vous. Messieurs, J-2 avant PSG Aston Villa, le vainqueur de la Ligue des Champions face au vainqueur de la Ligue Europa, c'est la finale de la Super Coupe. Ça sera à suivre évidemment sur RMC en direct dès 21h mercredi en direct de Salzbourg. Et nous allons parler de ce match. Une petite information, vous le savez, hein, parce qu'on en avait parlé il y a quelques semaines, mais c'est toujours un joli clin d'œil. L'arbitre de cette finale, c'est l'arbitre somalien Omar Artane qui avait été refoulé des États-Unis alors qu'il avait normalement, évidemment, le droit d'être un des arbitres officiels de cette Coupe du Monde.
Arbitre CAF de l'année 2025 aussi.
Exactement. Et donc, au final, il avait été interdit de fouler le sol américain. Et derrière, on avait appris que donc l'UEFA lui proposait de d'arbitrer ce match ô combien important. Il a dit que c'était très important pour lui, qu'il avait eu une période très difficile et qu'aussi il avait eu beaucoup de témoignages de sympathie de la part de nombreuses personnes. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On rappelle pour les amicaux du côté du PSG, il y a eu la défaite 3-0 face à Mallorca, il y a eu le nul 1 but partout face à United.
C'est pas bon ça, Karine, c'est vraiment pas bon ça, ces matchs de préparation.
Mais c'est des matchs de préparation.
Bien sûr, c'est pas bon, c'est-à-dire.
Ah non, je suis ironique.
Résultat, ah oui, d'accord. Ouais.
Et du côté d'Aston Villa, il y avait une défaite 2-1 face au Bayern Munich. Est-ce que pour vous, le PSG est prêt ou ça va être peut-être le scénario comme la saison passée où ils avaient galéré, puis finalement, voilà, la saison magique avait déjà débuté face à Tottenham avec une première victoire à l'arrache.
Non, la réponse, elle est simple. Le PSG n'est pas prêt, mais sa principale garantie, son principal passeport, c'est sa haine de la défaite. C'est la compétitivité qu'a le PSG depuis l'arrivée de Luis Enrique en 2023, en déplaçant des montagnes, en se donnant jamais perdu d'avance. On a l'exemple concret l'année dernière, quand tu perds 2-0 contre Tottenham, t'arrives à remonter à deux partout. Et même dans la séance de tir au but, tu démarres mal, mais tu finis quand même par gagner. Donc voilà, c'est ça le PSG version Luis Enrique, une équipe qui refuse la défaite. Et mercredi, malgré toutes les contraintes des joueurs, les derniers qui sont arrivés ce matin du côté du campus du PSG, moi je m'attends à un PSG compétitif qui va vouloir chercher à faire le back-to-back également en Supercoupe d'Europe.
Tout le monde est dispo en tout cas, même si évidemment les formes sont très disparates, mais tout le monde est là.
Oui, oui, tout le monde est là. Bon, je pense qu'on risque de voir des joueurs titulaires, d'autres non. Après, juste pour rebondir sur Aston Villa, ils ont d'ailleurs commencé leur premier match amical le 21 juillet. Donc, c'est 7 jours avant la reprise du Paris Saint-Germain. C'est pour te dire.
C'est très Unai Emery. Ouais, avoir énormément de matchs de prépa.
Amico, sachant qu'ils se sont fait laver, hein, je crois, contre la Sociedad, contre le Bayern de Munich et peut-être même contre Porto. Ils ont gagné des matchs. J'avais regardé un petit peu contre des équipes un peu plus faibles, mais contre les grosses équipes, ça a été un peu plus compliqué. Et puis surtout, Aston Villa, on parle du Paris Saint-Germain, on va y revenir un peu plus tard, mais Aston Villa, c'est compliqué aussi pour eux. Hein. Ils ont perdu quand même des joueurs importants, notamment Morgan Rogers, Luka Digne, Tillmans, qui a signé du...
Ouais, le primeur Aston Villa a été attaqué très clairement.
Exactement, tu perds Onana aussi sur blessure pendant cette Coupe du Monde, donc je ne sais pas quel Aston Villa, déjà, on va retrouver avant de parler du Paris Saint-Germain. Bon, évidemment, c'est toujours un match un petit peu particulier, parce que l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui est l'actuel entraîneur d'Aston Villa, Emery, va forcément vouloir prendre sa revanche entre guillemets sur son ancien club. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Du côté du Paris Saint-Germain, tu as en effet beaucoup de retours. Maintenant, l'effectif est au complet, mais j'imagine que les joueurs qui sont arrivés hier ne vont pas forcément commencer le match. Après, quand tu regardes un petit peu, tu as des indications. Quand tu vois le dernier match contre Manchester United, je pense que le 11 titulaire du Paris Saint-Germain contre Aston Villa risque d'être intéressant. Alors peut-être que la ligne d'attaque, je me pose encore des questions.
Comment le 11 de départ ?
Mais alors tout dépend si Marquinhos non va jouer, parce que
Marquinhos, je pense qu'il démarre sur le banc.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que alors t'as ce match contre Aston Villa et quelques jours plus tard t'as ce match contre Lens. Donc en fait, c'est à Luis Enrique de trouver une balance entre ton titulaire contre Aston Villa et celui que tu vas mettre contre Lens. Est-ce que tu privilégies un match? Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier cette finale de Supercoupe justement? Est-ce que ça a un peu plus de valeur que cette finale contre le Racing Club de Lens? Je pense que oui. Alors comment je dessine ce Paris Saint-Germain? J'imagine que Safonov va être titulaire. Pacho va risque de jouer. Est-ce que tu mets Zabarnie à droite et alors tu fais rentrer Marquinhos? Est-ce que tu prends justement le risque de faire jouer ton capitaine, le Marquinhos, qui est l'un des plus âgés, enfin qui est même le plus âgé de l'effectif?
Qui a fait une bonne rentrée contre Manchester.
Qui a fait une bonne rentrée, je ne pense pas, pour être honnête. Je pense que Zabarnie risque de jouer avec Pacho à gauche. Et puis le petit Boli qui a fait deux très bons matchs, et notamment contre United. Après, Nuno Mendes est rentré assez tôt. Les Portugais sont rentrés assez tôt. Hein. Vitinha, Nuno Mendes. Est-ce que tu mettrais un Beraldo? C'est surtout devant que je me pose la question. Est-ce que tu mets un Mayulu, le quid du cas du petit N'Baye? Voilà, on sait que
qui a été le plus performant contre Manchester.
Ça a été très très compliqué là son intersaison. On va pas revenir sur un petit peu le feuilleton. Je pars. En tout cas, il a joué contre Manchester United et je pense qu'il sera titulaire aussi. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais quand tu regardes là sur les joueurs que je t'ai donnés, honnêtement, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe, surtout si on parle d'un Aston Villa qui est déforcé, qui a fait une préparation plus que moyenne. Voilà, je vois pas le Paris Saint-Germain être inquiété contre Aston Villa.
Moi, je suis d'accord, le rapport de force, il est déséquilibré en termes de talent et il est en faveur du PSG, quand bien même il y a des contraintes liées à la préparation, liées au retour tardif, mais t'as de quoi construire une équipe compétitive. Moi, le trio d'attaque, je le vois avec Ibrahim Baye, Mayulu dans un rôle de faux neuf, Varache sur le côté gauche, t'auras les Portugais au milieu terrain avec Neves, Vitinha, et je sais pas qui pourrait l'accompagner.
Tu peux même mettre Drou Fernandez.
Peux mettre Drou Fernandez et charnière centrale, t'auras Zabarnie, Pacho, mais t'auras et Nuno Mendes latéral gauche. T'auras quand même une équipe compétitive et pour moi, le PSG est clairement le favori face à Aston Villa.
Clairement le favori, s'ils ont moins de préparation.
Même s'ils ont moins de préparation. Alors oui, Aston Villa a beaucoup joué. Ça, c'est vrai. Ils ont beaucoup joué. Ils ont démarré la préparation beaucoup plus rapidement. Mais il y a eu, ils ont perdu des joueurs. Luka Digne, par exemple, est arrivé du côté du PSG. Ils ont également, Emiliano Martinez qui a repris l'entraînement il y a très, 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 très récemment, je crois, aujourd'hui. T'as Isri Kounsa, pareil. Donc, eux, ils arrivent aussi avec les contraintes liées à la Coupe du Monde.
Bien sûr. Mais t'as trop de talent au Paris Saint-Germain pour te faire battre contre Aston Villa. Alors, tu sais jamais. En effet, c'est le premier match officiel de la saison. Tu sais pas exactement dans quel état de forme forme certains joueurs vont être, notamment parce que ça fait quand même deux grosses saisons, hein, lorsque tu regardes. Si en plus de ça, tu rajoutes la Coupe du Monde des clubs l'année dernière, tu rajoutes la Coupe du Monde cette année pour les internationaux, mais je vois vraiment pas le Paris Saint-Germain se faire embêter par Aston Villa. Ce qui serait intéressant de voir, justement, c'est juste cette ligne d'attaque. Moi, c'est vraiment le point d'interrogation que j'ai par rapport à Mayulu. Est-ce que tu fais jouer Mayulu en tant que faux numéro 9? Est-ce que tu fais jouer Mbaye, Kvara, qui n'est pas parti à la Coupe du Monde, qui risque d'être en grande forme, tout comme Zabarni. Zabarni, d'ailleurs, qui a été bien meilleur. Hein.
Je l'ai exactement, trouvé, j'ai pensé à toi sur le deuxième match.
Pour les gens qui ont suivi l'after l'année dernière, je suis vraiment pas un grand fan de Zabarni. Bon, il est fautif sur le deuxième but contre Mallorca, hein, je crois.
Contre Mallorca, ouais, ouais. Il est trop optimiste sur
mais même physiquement, je le trouve un peu plus fin. J'ai le sentiment qu'il a perdu un peu de poids. J'attends de voir. Est-ce que ça serait pas la saison de rédemption pour Zabarni? On parlait de l'adaptation.
Bah voilà, petite saison d'adaptation.
Il y a aussi le prix du transfert sur sa tête. C'est pas facile, mais tu vois, ça c'est aussi le joueur que je vais suivre cette année, notamment.
Il y aura toujours ce problème de contexte tactique. Maxime l'a évoqué très longtemps la saison dernière. Sa mobilité dès lors qu'il arrive dans un contexte de 1-1. Ça, c'est un écueil qui va être
très important. Mais tu sais, si tu perds un peu de points, c'est déjà pas la même chose. Hein, quand
c'est
tu perds des points.
C'est vrai, mais il faudra éviter ce genre de contexte.
Non, c'est clair. Après, on en avait parlé l'année dernière, mais c'est vrai qu'il était dans une équipe à l'époque qui défendait quand même en bloc médian, voire même bloc bas. Il se retrouve avec un Paris Saint-Germain qui va chercher très haut, avec justement énormément de profondeur dans son dos. C'est vrai qu'il a pas forcément le profil, en tout cas, pour courir et essayer de rattraper, en tout cas, les attaquants. D'ailleurs, contre Mayer, qui s'est fait prendre deux ou trois fois. Mais en règle générale, sur les deux matchs qu'il a joué, je l'ai trouvé beaucoup mieux que l'année dernière.
Surtout qu'avec Iraola, ça défendait davantage en individuel. Donc, c'était une défense qui était très particulière, une défense entre une approche bielsiste. Là, il arrive sur une autre approche avec Luis Enrique. Et peut-être que son logiciel foot n'était pas encore prêt.
Ouais, à voir.
On suivra en tout cas donc cette finale de Supercoupe sur RMC. On rappelle, coup d'envoi 21h entre le PSG et Aston Villa, et ça se joue à Salzbourg. On voulait également parler de un petit souci aux yeux d'Elton, c'est l'instabilité des gardiens en Ligue 1 qui t'inquiète. C'est ton avis tranché.
Nico, moi j'aime bien Cendrillon et tout, elle a retrouvé son carrosse, ok, c'est très bien, mais à un moment donné...
Sa chaussure.
Sa carrosse, sa chaussure, ouais. Que c'est.
Il est extraordinaire ce jingle.
J'ai pas compris pourquoi il m'a interrompu ce Nico Jamin.
Elton, nous parlons pas de carrosse, nous parlons pas de chaussures, on va parler des gardiens de Ligue 1 parce qu'il pourrait y avoir à nouveau un turnover à ce poste ô combien important et... Tu trouves que c'est un petit peu inquiétant.
Mais moi, j'avoue que Karine, je suis perdu, moi, parce qu'on nous explique que la stabilité chez les gardiens, c'est quand même très important. On a des gardiens qui peuvent s'inscrire dans la durée. Mais il se trouve que, en ce qui concerne la Ligue 1 et principalement le haut du tableau, c'est pas nécessairement le cas. Et on est encore une fois sur un été où on a fait beaucoup d'émissions, notamment, pour repasser de l'actualité des équipes, des clubs, des joueurs, etc., etc. Et à chaque fois, on a été confronté à la question du gardien. Et moi, ça m'inquiète, parce que moi, je pense que ça devrait être un acquis. Mais il se trouve que, par exemple, au PSG, il y a des débats autour du rôle du gardien. On parle d'arrivée de Suzuki en provenance de Parme. Donc, ce qui te laisserait faire dire que Safonov n'est pas forcément légitime pour toute une saison. Ensuite, on a l'Olympique de Marseille avec Geronimo Rulli qui est en partance, mais ça ce serait davantage par rapport à une donnée économique. Donc encore une fois, instabilité au poste de gardien avec Delange qui pourrait reprendre le lead. Ensuite, on a Lille avec Auzer qui a pas forcément été satisfaisant. On parle de l'arrivée notamment de Moridio. Lyon, on a parlé avec Dominique Greffe qui a pas été forcément rassurant
mais qui a fait une bonne saison l'an dernier.
Et ce que je veux dire par là, c'est que cette instabilité du côté des gardiens et notamment cette incapacité justement à être dans un premier temps stable et surtout être performant, moi c'est un problème et ça pourra avoir un impact sur la saison à venir, sur la saison 2026-2027. Ou encore une fois, je n'écarte pas l'idée que les gardiens qui sont théoriquement les titulaires au départ ne le soient pas à l'arrivée parce qu'il peut y avoir encore un turnover. Et moi, il y a des clubs, on vient de l'évoquer, que ce soit le PSG, que ce soit Lille par exemple, qui pourraient être susceptibles d'être touché. Et donc aujourd'hui, c'est une instabilité qui, pour moi, est toute récente. Alors, c'est lié à quoi ? C'est lié à différentes questions, des gardiens très importants qui sont partis, qui n'ont pas été forcément bien remplacés. C'est une question peut-être conjoncturelle avec des gardiens qui aiment, ou plutôt des entraîneurs qui aiment bien s'appuyer sur une doublette de gardiens au nom de la performance. Mais toujours est-il que pour moi, à l'instant T, ça ne profite pas notamment au haut du tableau et notamment ces clubs qui ont vocation à être performantes en Ligue 1 mais aussi en Coupe d'Europe.
Maxime, moi je vais prendre le contre-pied. Est-ce que finalement c'est pas une bonne nouvelle? Par exemple Lille, effectivement, Hauser a pas vraiment endossé ce rôle de numéro 1 et la suite de Lucas Chevalier. On a vu la même chose pour Marseille avec Rulli, première saison très bonne où on s'est dit c'est incroyable, c'est le gardien qui nous surprend. On n'avait pas souvenir d'un tel niveau de la part de Rulli et puis finalement la saison 2 elle a été beaucoup moins bonne. Est-ce que finalement c'est pas bien que tout de suite ces clubs se disent bon ben voilà, on va ouvrir une nouvelle page, de l'ange du côté de l'OM qui devrait être le gardien et Mourinho qui serait pris au Havre et qui pourrait être le numéro 1.
En tout cas, quand t'es directeur sportif de ton club et que tu choisis de changer de gardien de but, c'est-à-dire que, enfin, c'est en l'occurrence parce que ton gardien ne t'a pas donné satisfaction. Alors, Elton a cité plusieurs exemples. Je pense qu'il faut vraiment faire la différence, par exemple, entre ce qui se passe au Paris Saint-Germain où est-ce que tu décides d'aller chercher Suzuki. Alors, est-ce que Suzuki serait numéro 1? Est-ce que Safonov redeviendrait numéro 2? Aujourd'hui, c'est vrai que Safonov a fait une très belle saison et notamment, en fait, personne l'attendait forcément à ce niveau-là. T'es d'accord avec moi? Il y a quand même une marge de progrès pour Safonov. Et si le Paris Saint-Germain veut arriver à aller chercher une troisième Ligue des Champions, on parlait un petit peu des départements, en tout cas des
axes d'amélioration.
Exactement. Et je pense que le poste de gardien de but en est forcément, pas forcément, mais en tout cas pourrait être une piste à explorer. Alors quid maintenant du cas Lucas Chevalier, ça c'est une autre histoire. Par rapport à l'Olympique de Marseille, tu l'as dit aussi sur Rulli, c'est aussi une histoire d'aspect financier parce que on sait qu'il prend un gros salaire, on sait qu'il lui reste un an de contrat, donc c'est vrai que de lui donner la chance de pouvoir partir dans un projet comme Manchester City pour un gardien de 34 ans, même pour lui, je pense que c'est top. Donc c'est vraiment deux dossiers complètement différents. Moi, vraiment, si je veux parler d'un dossier qui m'a vraiment chagriné, c'est le cas Hervé Kofi du côté d'Angers, enfin du côté de Lens, tu t'en as parlé. Quand je vois la saison qu'il a fait du côté du SCO Angers et qu'aujourd'hui il se retrouve à signer à l'Union Saint-Gilloise en Belgique, qui est un très bon club.
Mais c'est un gâchis pour la Ligue 1.
Il y a un problème dans le recrutement.
Pourquoi Lille n'y est pas allé? Il avait d'ailleurs joué à Lille il y a quasiment 10 ans.
Oui, il y a quasiment 10 ans.
Donc c'est vrai que c'est assez surprenant qu'on n'ait pas donné la chance à un gardien comme Hervé Kofi.
C'était Lens le club.
Non, mais parce que Lens, il y a Lens n'a pas besoin de chercher un gardien.
La perspective de voir Lens vendre à Lille, c'est un peu
toujours
compliqué.
Un peu compliqué, mais après...
Ils n'en veulent pas, Lens. C'est ça la réalité. Enfin, ils n'en veulent pas. Ils ont Robin Rissert qui est très bon et Kofi n'est pas dans leur plan. Là, ils l'ont prêté avec option d'achat, donc l'histoire va peut-être se terminer.
Mais tout comme les joueurs, c'est-à-dire le poste de gardien de but est un poste à part, bien évidemment, mais ça fait aussi partie des axes d'amélioration de certains clubs. C'est le cas peut-être pour le Paris Saint-Germain, pour l'Olympique de Marseille, et tu as pris l'exemple de Robin Rissert. Mais quand un gardien fonctionne bien, t'as pas tendance à changer. Donc voilà, ça fait partie aussi aujourd'hui du football moderne. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, Elton, pour avoir été un défenseur, c'est important de garder des automatismes avec ton gardien de but. Et on sait que les automatismes, eh bien, ça prend du temps. Et parfois, il faut 2, 3, 4 saisons pour que ça fonctionne entre tes défenseurs et ton gardien de but. Maintenant, c'est la réalité du football moderne avec énormément de transferts rentrants, transferts sortants. Je suis d'accord aussi avec toi dans la mesure où je ne pense pas que ça aide forcément les clubs à performer aussi rapidement lorsque tu as du changement à ce poste-là. Mais voilà, il faut l'accepter et ça fait partie, je le répète encore une fois, du football moderne.
Le fait est que si on a parlé de Kofi beaucoup de fois la saison dernière et qu'on l'a présenté parfois comme le gardien le plus régulier de Ligue 1, c'est précisément parce qu'il y a une baisse de niveau chez les gardiens de l'élite, enfin chez les gardiens du haut de tableau. Et ça, c'est pas forcément la chose la plus rassurante parce que il y a une dizaine d'années, on n'avait pas forcément ça. On avait une certaine stabilité qui est apportée de l'excellence.
Et on rappelle que Kofi, qui avait été prêté par Lens à Angers l'été dernier, Angers avait voulu mettre une option d'achat, mais la DNCG avait refusé. Exactement. Parce qu'ils étaient interdits de recrutement. Et à l'issue de la saison, Lens a demandé une somme beaucoup trop élevée pour Angers, donc il est parti. Et finalement, donc il va continuer en Belgique. Il va jouer la Ligue des Champions, mais c'est vrai que pour nous, c'est une perte parce qu'en Ligue 1, il aurait eu sa place et notamment à Lille.
Tu m'as dit Lille, ça aurait été super.
C'est deux postes différents lorsque tu joues. Et on a pris le cas d'Hervé Kofi, c'est la même chose avec Anthony Lopez. Quand tu joues dans un club comme le SCO Angers ou comme le FC Nantes l'année dernière.
T'es beaucoup plus sollicité.
Exactement, t'as quand même énormément d'arrêts à faire. C'est pas forcément le cas lorsque tu es dans une équipe dominante ou est-ce que t'as tendance aussi à avoir souvent le ballon dans les pieds. Donc c'est quand même, alors c'est le même poste, mais c'est deux jobs complètement différents. Il faut voir Kofi comment il se serait adapté sur une équipe de haut de tableau en France, même si ce qu'il nous a montré à Angers me laisse croire et me laisse penser qu'il aurait forcément performé et que ça aurait été vraiment une bonne pioche pour un club français.
Dans quelques instants, les dernières infos sur la planète Mercato. On est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite sur RMC.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Karine Galli.
On est ensemble jusqu'à minuit en direct sur RMC. On vous lit sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Mais aussi, on est là avec vous au standard, au 32-16. Les informations du jour, messieurs. TJ Savanier va découvrir le Nord. Ça, on ne l'avait pas vu venir. Je on rappelle ouais. que la, le milieu
la Lorraine,
de terrain
tu veux dire.
De 30 ans, mais le Nord, c'est le Nord de la France. Attends,
ouais, mais Karine, au-dessus de Lyon, c'est le Nord.
Bah, évidemment. Non, mais attendez. Évidemment, c'est le Nord de la France. Je veux dire, il n'avait joué que dans des clubs du Sud. Après Valence, même. Après Valence,
ah ouais.
c'est
t'as raison,
Lyon,
t'as
dans
raison.
Le Nord.
Ah oui, oui.
Ah, d'accord.
Pour les gens du Sud comme nous, oui. C'est, le Nord commence très vite. En tout cas, c'est quand même une énorme surprise. On rappelle donc qui rejoint donc le club relégué en Ligue 2, qui a gagné d'ailleurs son premier match, on rappelle samedi, face à Guingamp, un succès 2-1. Et donc l'ancien de Montpellier arrive pour un an de contrat avec une autre en option. Bonne chose, bonne nouvelle pour les Grenats.
Moi, c'est une bonne chose. Il y avait Gauthier qui est parti du côté de Nice. Il fallait remplacer. Et là, il se trouve que c'est un élément qui était il y a encore très peu du côté de la Ligue 1, même si ça s'est pas bien fini du côté de Montpellier. C'est un joueur qui a la relance. En plus, on a la formule, à savoir un prêt qui protège Metz pour l'instant.
Ouais, après il faut voir dans quel état de forme il va
et
arriver.
Le joueur aussi.
TJ, surtout il a pas eu de préparation. D'ailleurs ça a été un peu compliqué sur sa dernière année du côté de Montpellier. Mais j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup le joueur. Il rapporte beaucoup de fraîcheur. On est content en tout cas de le garder du côté de la France parce que je sais qu'il avait des touches aussi à l'étranger. Mais non c'est bien. Après on va voir ce que ça va donner parce que c'est vrai que Metz,
ça
un contexte
surpris,
un petit peu particulier.
Aussi à Metz.
Un contexte un petit peu particulier. Mais c'est vrai qu'avec Maxime Collin du côté du FC Metz, ça fait du bien d'avoir un petit peu d'expérience, d'autant plus que connaissant le président Messin, j'imagine que le FCMS va vouloir rebondir et remonter très vite en Ligue 1, donc c'est vrai que l'expérience de TJ Savanier va être importante.
Ils avaient été menés 1-0 par Guingamp, ils les ont renversés et donc ils ont gagné 2-1, vous l'avez suivi sur RMC samedi soir. Messieurs, Toulouse refuse 33 millions d'euros pour Metalli, ça aurait été la plus grosse vente de l'histoire du club si Toulouse avait accepté, en tout cas c'est la quatrième offre de Sunderland pour l'arrière-gauche de 20 ans, 30 matchs la saison passé. On attend de faire encore plus péter les plafonds.
Ben oui, parce que il y avait le président Cloiret qui était présent il y a quelques jours, même plutôt quelques semaines du côté de l'After. Il avait exposé notamment sa politique. Et aujourd'hui, Toulouse a les moyens de se montrer exigeant sur le marché des transferts. C'est un club qui a quand même bien vendu et c'est un club qui vend en plus ses pitchouns de manière très importante. Et donc par rapport à Metalli, qui a un enjeu parce que pour moi c'est un vrai bon défenseur en devenir. Ouais. Il y a la première ligue qui l'appelle déjà. Donc on sait très bien que du côté de Toulouse, le temps est en leur faveur. Et ouais, donc par rapport
exactement.
À ça,
il partira.
Mais il partira, mais pas n'importe quel pick.
Qu'une seule saison pour Metalli.
Ouais, mais c'est un très très bon joueur.
Et un poste sinistré.
Voilà, ouais, c'est vrai. Qui a énormément de potentiel. Et écoutez ce que je vous dis, note bien, je ne serais pas étonné de le voir en équipe de France sur les prochaines années. Je trouve qu'il a un gros potentiel.
Futur arrière-gauche des Bleus.
C'est possible. Karine, quand tu vois un petit peu le désert avec l'équipe de France, c'est possible de le voir en équipe de France.
On avait commenté le Toulouse PSG l'été dernier. Il nous avait tapé dans l'œil. C'est un vrai bon défenseur.
Tu peux être sûr qu'à mon avis, il partira d'ici la fin du mercato. Comme Elton l'a dit, pas à n'importe quel prix.
Toulouse, ils ont bien vu. Sunderland, ils jouent la Ligue Europa la saison prochaine. Donc, ils ont des sous, en plus d'être en PL.
Bien sûr.
33 millions, c'est déjà une belle somme pour jouer une seule saison en Ligue 1.
Même si t'as pas trop de problèmes financiers, comme tu l'as dit, Elton, du côté de Toulouse. Et quand on te propose 35 points, 35 bâtons pour un joueur qui a été formé au club, il faut envoyer.
Ils iront jusqu'à 40.
Arojo qui quitte le FC Barcelone pour la première ligue, c'est officiel. Donc il rejoint Liverpool. L'international uruguayen va découvrir la première ligue et l'Angleterre. On rappelle qu'il avait parlé de ses problèmes de santé mentale, qu'il avait même été écarté de l'équipe du FC Barcelone suite à un match très compliqué en Ligue des Champions. Il peut se relancer à Liverpool ou
Ça, pour moi, oui, il peut se relancer du côté de Liverpool. Il y a un enjeu qui est important. Ils ont perdu Konaté. Il y a Jacquet qui n'est pas encore totalement rétabli. Donc, il y a un besoin immédiat du côté de Liverpool dans ce secteur pour accompagner Van Dijk. Et moi, je pense qu'il peut se relancer parce qu'à la fin, il était dans un contexte très toxique du côté du Barça. Parce que pour moi, il ne s'est jamais remis de son carton rouge contre le PSG. Et depuis, c'est une descente aux enfers. Et là, le fait de retrouver un autre contexte dans un championnat qui peut convenir à ses qualités, basé sur le duel, sur l'intensité, et ben justement, je pense que Ronald Araujo peut se relancer.
Quel accent, Elton.
Oh là là,
quel accent, il sait tout.
Moi, je suis suis bilingue, je m'appelle Elton Mokolo, c'est magnifique. Tu nous fais rêver. L'Inter Milan qui se renseigne sur Moussa Diaby, on rappelle que l'hiver dernier déjà l'Inter s'était renseigné, mais finalement le deal n'avait pas eu lieu. On parlait d'une offre de 20 millions d'euros à l'époque pour le Français qui était à Al Ittihad, et là on nous dit selon la Gazzetta dello Sport que l'Inter reviendrait à la charge et qu'il serait toujours une des priorités pour l'Inter. Bonne idée pour lui ou
en
pas?
En tout cas, bonne idée pour lui. Il est parti prendre jackpot en Arabie Saoudite et revient dans un grand club européen. Ça, c'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel. Bonne idée pour lui, oui. Ça lui permet d'être visible. Alors après, à voir ce que ça va donner, parce que c'est vrai que la Serie A est un championnat un petit peu particulier. Mais si j'étais à sa place, ouais, clairement. C'est un peu l'exode, hein, quand même, hein, le retour des joueurs, hein, de l'Arabie Saoudite. Hein. On le sent
que ils ont rempli l'objectif et il n'est pas forcément sportif.
Ouais, ouais, on a compris. Ouais.
Il y a le Bayer Leverkusen qui est aussi intéressé. Ça sera un retour là où il avait explosé. Il faut quoi? Mieux retourner là où tu as bien fonctionné, où tu as éclaté au plus haut niveau.
Moi, j'ai envie de
découvrir en Italie.
J'ai envie de le voir en Italie, du côté de l'Inter, qui va vouloir chercher à avoir le deuxième scudetto de suite, ce qu'ils n'ont pas fait depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années. Donc forcément, c'est un objectif qui est très intéressant. Reste à savoir s'il venait à arriver, où il sera aligné du côté offensif, dans l'attaque à deux de Kivu, ou plutôt davantage dans un rôle de piston, rôle qu'il a pu aussi emprunter par le passé. Mais en tout état de cause, pour moi, ce sera un vrai bon recrutement du côté de l'Inter.
Il y a une information qui vient de tomber également selon AS, c'est que Hendrik devrait rester au Real Madrid. On rappelle qu'il avait été prêté l'hiver dernier à l'Olympique Lyonnais, il avait fait une demi-saison, il était dans la liste de Carlo Ancelotti lors de la Coupe du Monde 2026 et José Mourinho comptait sur lui. Bonne nouvelle pour Hendrik, José Mourinho peut le faire.
C'est une mauvaise nouvelle.
Pourquoi? José Mourinho ne peut pas le faire progresser?
Non, mais moi je ne comprends pas la gestion de la carrière d'Hendrik, parce qu'à partir du moment où tu as sollicité un prêt au mois de janvier, t'arrives, tu rentres.
Oui, mais tu voulais aller faire la Coupe du Monde, tu l'as faite.
Oui, tu l'as faite, mais tu rentres au Real Madrid et tu t'aperçois que le Real Madrid, en plus d'avoir Kylian Mbappé, a investi notamment une vingtaine de millions sur Carlos Espi, l'une des révélations avec Levante. Donc Carlos Espi, je pense qu'ils vont vouloir l'utiliser. Donc t'es troisième de rotation et je suis désolé, à 20 ans, même si t'es au Real Madrid, tu as besoin de jouer. Donc Hendrik, moi, la première chose que je fais dès que je sors de la Coupe du Monde, j'appelle mon agent et je me dis, je fais une préparation complète avec un nouveau club. Parce qu'au Real Madrid, bah, la question elle va encore se reposer au mois de janvier. Ça, je te l'annonce, sauf blessure ou cas extraordinaire où tu as Kylian Mbappé qui disparaît de la circulation.
Ouais, c'est vrai que ça bouchonne hein, devant au Real Madrid hein, avec les arrivées, notamment Sinjo Mandé. Enfin, c'est vrai qu'il y a du monde. C'est quand tu es un jeune joueur comme Hendrik, tu as quand même fait une demi-saison plus que correcte du côté de l'Olympique Lyonnais. Et on l'a vu hein, d'ailleurs, hein, il a eu du mal à être régulier quand même sur 6 mois, mais sur ces 2 premiers mois, c'était quand même assez intéressant. Il a besoin de jouer, Elton a raison, il a besoin de performer, il a besoin justement de prendre de l'expérience, parce que dans un club comme le Real Madrid, c'est aussi important hein, justement d'arriver avec un statut. Et là, actuellement, je le vois mal jouer, sauf catastrophe et grosse blessure. Mais à mon avis, je pense que au mois de janvier, on risque de reparler d'un prêt pour le Brésilien.
Toujours une information de la Gazzetta dello Sport, c'est Gabriel Jesus qui serait pisté par Naples. On rappelle que le club italien a déjà dépensé 86 millions d'euros et là, il s'attaque aux joueurs d'Arsenal. Est-ce que c'est une bonne idée?
Mais la Serie A, c'est le cimetière du football, hein. C'est pas possible.
Oh bah, non,
bien sûr, tous les joueurs qui avancent plus, ils finissent en Serie A. On parle de la MLS et de l'Arabie Saoudite. Je sais que ça fait sauter en l'air Elton, mais c'est une réalité. C'est une réalité.
Il n'y a pas d'autres joueurs sur lesquels tu es un joueur qui est dans son prime.
Et quand tu t'appelles le Napoli, quand tu t'appelles l'Inter, quand tu t'appelles en tout cas quand tu as un gros club de Serie A, est-ce que tu peux pas te positionner sur des joueurs qui sont un peu plus jeunes? Je sais pas.
C'est toute la question.
Il n'y a que 29 ans.
Mais que 29 ans pour un attaquant, tu sais très bien que c'est pas le prime. Après, attention, je lui souhaite que ça fonctionne dans un championnat qui est quand même beaucoup plus lent que la première ligue, avec beaucoup moins d'intensité. Ça peut être un bon choix pour lui. Je ne suis pas convaincu que ça soit un bon choix pour le Napoli.
Non, mais c'est toute la question. Ils peuvent se positionner notamment sur des joueurs qui ont plus d'avenir en première ligue. Et je te dis ça, McTominay était dans cette logique-là.
Quand il est du côté
de Manchester United, ils l'ont relancé et est devenu meilleur joueur de Serie A. Alors, je ne te dis pas que Gabi Jesus il sera meilleur joueur de Serie A, mais aujourd'hui, tu sais très bien que tu dois, entre guillemets, laisser partir Romelu Lukaku du côté de Fenerbahçe, potentiel adversaire de Lyon en barrage de Ligue des Champions. Et Gabi Jesus, Vinicius qui à un moment donné s'était relancé lors de la saison dernière, même si ça a pas continué. Et ben dans un nouveau projet, dans un championnat un peu moins exigeant que la Première Ligue, il peut avoir son utilité.
Beaucoup de blessures pour Gabriel Jesus. Mais
par contre, Karine, ça m'a interpellé le chiffre. Ils ont investi plus de 80 millions d'euros.
86 millions d'euros déjà dépensés par Napoli.
Il y a des sous. Hein.
Et Naples va vendre aussi Romelu Lukaku, vous le savez. Donc, il va y avoir des sous encore qui vont entrer là dans les besaces de De Laurentiis. Messieurs, une information.
Bien cher. Hein.
Bah écoute, sa Coupe du Monde n'est pas mauvaise.
Non, mais bon, enfin, voilà.
Il était en froid avec le Napoli, mais la Coupe du Monde.
Il a fait une grande saison l'année dernière, quoi.
Oui, mais il a joué moins de.
À la Coupe du Monde, il a regagné quelques millions.
Ah oui. Ah, mais la Coupe du Monde, ça a été clairement son passeport. Mmh, très
ouais,
clairement.
Ouais, c'est vrai. Merci à Rudy Garcia, en effet. Ouais.
Une information, RMC Sport et Fabrice Hawkins, le PSG qui veut recruter le jeune Montpelliérain, Lassine Maignan-Pavé. On parle d'un joueur de 16 ans qui est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. C'est un attaquant puissant, technique, et le PSG veut absolument l'enrôler. On parle d'un contrat de 5 ans. Alors, pour l'instant, Montpellier dit non, forcément ils font monter les enchères, mais le PSG espère arriver à ses fins. C'est intelligent de prendre les jeunes pousses qui sont intéressantes dans les différents clubs du côté du PSG pour continuer voilà, à faire grandir certains joueurs.
Alors là, pour le coup, Karine, je t'avoue que j'ai arrêté de jouer à Football Manager depuis quelques mois, donc j'aurais pas assez de références pour parler des joueurs.
Tu ne connais pas
de
joueurs, mais c'est pas
grave.
Mais
plus sérieusement, je sais que, enfin, je me suis un peu renseigné, c'est un enjeu notamment pour de gros clubs européens, et donc c'est pour ça qu'il y a une course à la surenchère en voulant l'avoir très rapidement, mais on va attendre de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est vrai que j'ai pas vu le joueur.
En tout cas, information Fabrice Hawkins, le PSG qui veut absolument ce jeune Montpelliérain de 16 ans, et ça pourrait faire du bien aussi aux finances du MHSC qui a quand même besoin de sous. Messieurs, concernant Højbjerg, le joueur de l'Olympique de Marseille, vous savez qu'à Marseille, tout le monde est à vendre, tout le monde est susceptible de partir.
Là, il y a des taxis vers Marignane qui doivent partir.
Et du côté
pour l'instant, ils sont bloqués.
De Højbjerg, il y aurait eu un intérêt de la part de Newcastle. Eh bien, le joueur danois ne voudrait pas aller à Newcastle, et donc ça contrarierait fortement Frank McCourt, le propriétaire.
Attends,
parce qu'il faut des sous.
Il veut pas aller en Arabie Saoudite, ça je peux le comprendre d'un point de vue sportif, mais si tu veux pas aller en Première Ligue, quand t'as fait une saison comme ça avec l'Olympique de Marseille, attends, Newcastle c'est quand même pas mal, non?
Après vous avez l'aspect foot, moi j'ai l'aspect carte postale. Cassie, Newcastle, c'est pas la même chose.
Dans ce cas-là, tu ne bouges jamais de Marseille.
Ah, hein. Ah oui.
Si tu vis à Cassis et si tu penses juste à l'endroit où tu vis, c'est sûr que tu refuses tous les transferts.
C'est toi qui dis ça, Karine. La qualité de vie, c'est pas important.
La qualité de vie est primordiale.
Bah, parce que Højbjerg
a joué pendant 10 ans à Tottenham, donc la pluie, il connaît, ça va.
Il est à Londres.
Il pleut tout le temps.
Après, tu sais très bien que c'est son dernier gros contrat, entre guillemets, donc c'est un choix qui va être important pour lui. Alors je comprends qu'il refuse l'Arabie Saoudite pour les raisons qu'on connaît en Arabie Saoudite. Je peux comprendre aussi qu'il refuse parce que j'ai entendu qu'il avait des pistes en Turquie, notamment sur les salaires impayés. Mais là, rentrer en Première Ligue dans un club comme Newcastle, qui est quand même un club ambitieux, alors oui, c'est peut-être uniquement la météo qui bloque le transfert.
Non,
à la place de McCourt qui a besoin d'utilité, moi je le pousse lui-même et je l'emmène moi-même à Newcastle.
Là où je reprends mon sérieux, c'est qu'il y a d'autres considérations, parce que pour beaucoup, la Première Ligue, c'est l'Eldorado, c'est le Nirvana.
C'est son championnat en plus à Højbjerg. Ça va,
Justement, il a fait Southampton, il a fait Tottenham, il a fait quasiment une décennie là-bas. Peut-être qu'il est aussi dans une projection de carrière où il se dit ça va, j'ai assez donné du côté de la Première Ligue.
Et donc,
j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y retourner.
Et donc, tu restes à Marseille après la saison très moyenne que le joueur a vécue et que le club a vécue.
Qui joue l'Europa League la saison prochaine entre Marseille et Newcastle?
Mais en
Première Ligue, tu joues la Champions League.
Moi, je te dis, peut-être que je suis naïf, mais peut-être qu'il a pas envie de repartir, notamment sur un projet.
Non, ça peut s'entendre.
Peut-être que les Newcastle, notamment en termes salariales, ils l'ont pas encore convaincu.
Voilà. Et je pense que, mon ami, on en est là. Parce que, donc, ça veut tout dire. Ça veut aussi dire que l'Olympique de Marseille a fait absolument n'importe quoi en lui donnant ce salaire-là en arrivant à l'Olympique de Marseille.
Mais Maxime, aujourd'hui, il a un salaire Ligue des Champions.
Bien sûr, c'est quoi, un demi-million? un demi-million par mois.
Ils vont pas le payer en cacahuète. Le salaire sera sympa aussi.
Que Marseille veut s'en débarrasser, donc il y a sûrement un petit peu un jeu de poker menteur, mais il faut aussi se poser la question comment Højbjerg est en mesure de se réadapter à l'Angleterre et à la Première Ligue. Hein. Il a un certain âge, il a joué en deuxième, voire en vitesse 3, en troisième vitesse toute la saison du côté de l'Olympique de Marseille. Compliqué de revenir dans la fournaise anglaise du côté de la Première Ligue. J'attends de voir. Mais en tout cas, s'il refuse la Turquie, il refuse l'Arabie Saoudite et il refuse maintenant la Première Ligue, je vois pas où est-ce qu'il va terminer, mon petit Højbjerg. Peut-être qu'il va venir au Luxembourg, mais...
Tu sais que t'as quand même une obsession avec la... Maxime, tout le monde est vieux avec lui, c'est quand
même... Non, mais je dis, moi, pas
31 ans.
Mais c'est dans un football moderne, avec un football qui va de plus en plus vite, et on l'a vu durant cette Coupe du Monde, et bien à 31 ans, quand t'es milieu défensif...
C'est pas le meilleur exemple, t'as eu un Messi à 39 ans qui a été...
C'est différent, c'est complètement différent. Ben, gardien de but, Messi, Cristiano Ronaldo, tu vois bien qu'ils s'adaptent par rapport au jeu, et surtout les joueurs autour d'eux s'adaptent à eux.
Non, mais logiquement, il est pas bouilli, Hubert. Non, il a une saison très moyenne, mais on peut pas dire qu'il est bouilli.
Bien évidemment que t'as des joueurs à 30, 31, 32 ans qui courent encore, mais c'est vrai que Højbjerg, excuse-moi, avec ce que demande la Première Ligue, l'intensité, je suis pas convaincu que ça soit un choix exceptionnel pour Newcastle. Bon, voilà, ça n'engage que moi.
Ça, oui, je suis d'accord.
Mais ça serait une bonne chose pour Marseille qui part.
Mais en plus, t'as une offre, on parle d'une quinzaine de millions d'euros, mais pour, déjà, en termes salariales, mais aussi en termes d'indemnité transfert. Mais là, c'est, tu l'amènes à Marignane. Très clairement.
Ouais. Et puis on ne parle pas de Coventry, quoi. Enfin, je veux dire,
tu parles de Newcastle, qui tient
la route, quoi.
Qui jouait huitième de finale de Ligue des Champions la saison dernière.
Donc Højbjerg à Newcastle, c'est une très bonne idée. Donc Højbjerg retour en Première Ligue, c'est l'avis de l'Afterfoot. Marseille a besoin de sous. À partir du moment où la saison n'a pas été bonne, les joueurs.
Enfin, Karine, moi j'ai dit rien ne remplace le vieux port.
Non, déjà, Cassis le Vieux-Port, c'est différent.
Ouais, mais non, mais Cassis le Vieux-Port, tu passes devant le Vieux-Port, je fais, t'as l'alarme. Et je peux comprendre Højbjerg.
Alors, quand tu viens à Cassis, tu passes rarement sur le Vieux-Port à Marseille pour aller à la commanderie. Tu vois, c'est pas la route. Je suis pas sûr qu'il allait très souvent à Marseille.
Alors là, c'est vrai que là, je suis tombé. Là, je suis tombé sur un spécialiste.
Peut-être
je suis pas sur mon terrain.
Peut-être aller sur le port de Cassis, peut-être même manger au restaurant de Michel Platini, mais je suis pas sûr qu'il allait tous les jours non plus sur le Vieux-Port à Marseille.
Oui, tu m'as battu.
Les joueurs de l'OM qui vivent à Marseille, il y en a très peu. Ils vivent dans les alentours, globalement. Il y en a peu qui sont vraiment intramuros, comme on dit. Messieurs, on se retrouvera demain pour vivre, évidemment, la qualification ou l'élimination de l'Olympique Lyonnais. Un match ô combien important. Le Sparta Prague face à l'OL. L'OL qui doit absolument inverser la tendance. L'OL qui a été battu 2-1 et qui joue son avenir européen demain devant son public. Merci beaucoup, Elton.
Merci beaucoup,
Maxime.
Salut à tous, bonne soirée.
Merci à Sam qui était aux manettes de l'émission. Belle nuit à tous sur RMC.
RMC, l'After Foot.